Je pense que j'ai salué tout le monde. Est-ce que le micro est ouvert?
Oui.
Est-ce que moi je vois quelque chose? Oui, OK. J'aimerais vous remercier pour l'invitation et je suis très content d'être parmi vous. Avant de partager le message, j'aimerais vous parler un petit peu d'Haïti en quelques présentations, pour vous donner quelques informations au sujet d'Haïti. Alors, comme vous savez, Haïti partage une île avec la République dominicaine. Un tiers, c'est la République d'Haïti, et deux tiers, c'est la République dominicaine. Ils ont une frontière commune, deux républiques insulaires. Haïti est un pays de contraste, beaucoup de richesses culturelles et aussi beaucoup de richesses dans son sous-sol, mais Haïti n'est pas développé et les gens cherchent du travail, ils n'ont pas d'emploi et puis ont beaucoup de difficultés. Des défis socio-économiques aussi et environnementaux. Haïti fut la première nation multiculturelle de l'histoire moderne. Pourquoi je dis ça? C'est parce que le 20 mai 1802, Napoléon Bonaparte a publié un décret pour... On avait aboli l'esclavage depuis la Révolution française. Il y avait beaucoup de luttes à Saint-Domingue. On appelait cette place Saint-Domingue. Alors, Napoléon Bonaparte a envoyé une armée solide pour reprendre l'esclavage. Il a demandé aux les soldats polonais de venir avec lui et puis avec l'armée. En les promettant qu'il va libérer la Pologne. Et en arrivant sur place, les Polonais ont vu qu'ils étaient bernés par Napoléon. Ils ne sont pas venus comme des soldats de la liberté. Ils sont venus pour rétablir l'esclavage. Ils ont déserté, ils ont lutté avec les Haïtiens et ils ont... pour lutter contre l'indépendance. Et en 1804, quand Haïti est devenu indépendant, on l'a considéré comme des Haïtiens à part entière. Puis, on a des Allemands, des Libanais, des milliers de Syriens qui sont venus aussi comme des Haïtiens et ça faisait partie des points clés, des personnes clés dans l'économie du pays. Ils sont très impliqués aussi dans la politique. Donc, Haïti, la grande majorité, ça fait origine africaine, mais les grandes familles, l'élite haïtienne compose des Africains, des Européens, des personnes d'origine orientale et américaine. Cet homme, c'est un ancien prêtre qui s'appelle Jean-Bertrand Aristide. En 1995, vous vous rappelez ce qui s'est passé au Québec. C'est l'année du référendum. Vous ne manquez pas ça. Vous rappelez ce qui s'est passé en 1995. Oui, ça fait 30 ans de cela. On vient de fêter les 30 ans. Mais en Haïti aussi, il y avait beaucoup de mouvements politiques. Le président Aristide, pour éviter le coup d'État, a aboli l'armée. En abolissant l'armée, ça a déconstruit l'État. Comme c'est un populiste, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient de son côté, il les a armés. Il y avait une méfiance des groupes, des commerçants avec leur groupe de gangs armés. Les politiciens, pour être élus, avaient leur groupe de gangs. Tout le monde avait ses groupes pour les protéger. Ce qui met Haïti dans cette situation maintenant. Les gangs sont multipliés dans le pays, au point où on se demande, Haïti ne produit pas d'armes, d'où sortent ces armes? Ils viennent des États-Unis et passent par cette frontière poreuse qui n'a presque pas de surveillance, venir en Haïti avec la munition et ça cause tant de problèmes en Haïti, le problème qu'on a maintenant. Donc, Haïti est un pays en guerre, mais non pas avec notre pays, mais avec les enfants même d'Haïti. C'est un groupe de gangs parmi Jimmy Cerisier. Selon l'ONU, plus de 300 groupes criminels contrôlent 80% de la capitale. Et on comprend comment la situation. Port-au-Prince est fermé maintenant, on ne peut pas aller à Port-au-Prince. Et encore selon l'ONU, Haïti fait partie des 5 pays qui sont touchés par la faim. La Palestine, à cause de la guerre, le Soudan, le Yémen, la Mali et Haïti. L'insécurité alimentaire, vous pouvez comprendre ça, même ici au Québec, bon, j'entends, on parle de l'insécurité alimentaire. Imaginez en Haïti, où les gangs bloquent les rues pour que ça ne circule pas, et puis les gens, ils terrorisent la population. Mélissa vient de passer, cette cyclone, vous voyez, une rivière qui a quitté son lit, ce sont des autos qui sont enfoncées comme ça. On a eu, d'après ce qu'on rapporte, 20 morts et donc 10 enfants. Il y a des gens qui sont déplacés à cause des gangs. Leur maison était inondée. On voit le découragement dans le visage de ces gens-là. Alors, c'est la situation. Quand même, nous allons rendre gloire au Seigneur. Rendons gloire au Seigneur. Ici, c'est le centre médical BAK. Beaucoup, plusieurs, ceux qui ont visité Haïti connaissent cette place. Je rends gloire au Seigneur parce que en mai 2010, je suis venu donner une conférence. J'étais un des conférenciers pour parler d'Haïti parce que j'avais reçu des dons pour aller apporter en Haïti après ce qui s'était passé en 2010. Et puis, pendant la pause, il y a deux personnes qui sont venues me voir. C'était Isabelle et Michel, qui m'ont parlé de leur intérêt pour Haïti. Et effectivement, ils sont allés en Haïti. Isabelle est allée parler à sa famille. Donc, durant ces années-là, 5 de la famille La Chance m'ont accompagné. Et je me rappelle la première fois, c'était Michel. Et André aussi, sa fille, Annie, allait aussi. André a dit, oh, il faut amener cet homme avec vous, parce que cet homme connaît la place. Je pense qu'André a même payé pour mon voyage, pour que je puisse y aller. Alors, on est allé, j'ai calculé 13 personnes de la Beauce ont fait plusieurs voyages avec moi. C'est pourquoi je veux rendre gloire au Seigneur pour tout cela. Et je veux remercier aussi l'Assemblée. Il y a un proverbe haïtien qui dit « L'oiseau ne va pas à la guerre, mais ses plumes y vont. » Vous comprenez ce que ça veut dire? Votre encouragement pour la mission. Je me rappelle même, il y a un ancien qui est allé m'apporter un chèque pour me rencontrer à Widon pour m'apporter le chèque pour Haïti. Tout cela, tout ce que vous avez fait, encouragement, la prière, je vous remercie pour ce que vous avez fait. Dernièrement, la semaine dernière, j'ai parlé à l'administrateur de l'hôpital, Dr Mozart Chérubin, qui m'a expliqué la situation. À cause des gangs qui bloquent leurs routes, le carburant ne peut pas s'y rendre. Et l'hôpital a besoin de carburant pour fonctionner. Le Seigneur a pourvu un don d'un système solaire. Des gens qui sont venus pour installer le système. Là encore, c'est un miracle. On voit des étrangers qui ont fait le voyage en passant par le Cap Haïtien pour venir installer le système. Et le Seigneur pourvoit pour son œuvre. Je rends gloire au Seigneur pour cet homme, jeune homme. Durant le premier voyage, il est venu nous voir. Il a dit à un des membres, un anglophone qui était sur l'équipe, « Je veux être médecin. » Et le Seigneur a trouvé une personne de certain âge qui était seule, pas d'héritage. Il venait de vendre son terrain. Il a pourvu pour ce jeune homme pour qu'il devienne médecin. Et il est en train de faire une spécialité. Dans quelques mois, il sera à la pointe pour travailler. Là aussi, c'est l'occasion de rendre gloire au Seigneur parce que le Seigneur pourvoit pour son œuvre. Ce matin, j'aimerais vous parler de « Je suis ». Alors, j'ai entendu que vous ne dites pas, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de « Je suis ». Alors, les sept affirmations « Je suis » de Jésus. Vous savez, le chiffre 7, c'est un, on parle dans la parole comme le chiffre de la perfection, le chiffre de l'achèvement. Dans Genèse, on voit que Dieu a achevé son œuvre dans 7 jours, et le 7e jour, il se reposa. Et dans l'Apocalypse, on voit les 7 églises, on voit les 7 esprits devant le trône de Dieu, etc. 7. Même au cours du ministère de Jésus, on trouvait aussi 7, mais pas avec beaucoup d'explications. Pierre est venu un jour pour se poser une question à Jésus. Combien de fois dois-je pardonner mon frère? Oh, la question. Pierre, pensant être assez généreux, parce que les rabbins de son temps enseignaient que pour on peut pardonner 3 fois l'offenseur. Après ça, plus de pardon. 3 fois. Pierre, pensant être un peu généreux, s'il double 3 fois plus 1 pour faire 7, il doit être correct. Pierre pensait que 7 fois, non, le Seigneur lui a dit, donner toute une réponse. Et par la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ, on voit qu'on ne peut pas comptabiliser le pardon. Le Seigneur dit qu'il faut pardonner 77 fois 7, ce qui donne un total de 339 fois. Ce qui veut dire qu'il faut pardonner autant de fois qu'une personne demande le pardon. C'est l'enseignement de Jésus. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il nous a donné l'exemple, il nous a pardonné. Nous sommes pardonnés, c'est pourquoi nous sommes ici ce matin, pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre Seigneur à la croix, après nous présenter les 7 paroles, je ne vais pas les réciter, et aussi les 7 « Je suis » que nous trouvons dans l'évangile de Jean. Alors ça va vous préparer à vos études au cours de la semaine. Comme je ne peux pas vous donner toute une série, alors on va voir les 7 « Je suis ». Ne vous en faites pas, je ne vais pas rester jusqu'à toute la nuit pour vous raconter ça. Les 7 « Je suis », ça, c'est dans une bande à part. Quand on parle de « Je suis », ça parle de l'éternel. L'éternité, vous savez, c'est la durée qui n'a ni commencement ni fin. Si on voit un siècle, si je vous demande où commence ce siècle, vous ne savez pas. Où arrête ce siècle, vous ne savez pas. Ça nous fait penser à Dieu qui est éternel, qui n'a pas de commencement, pas de fin. Ce matin, nous allons voir ensemble la première fois que le grand « Je suis » s'est révélé. Et en deuxième lieu, les 7 « Je suis » prononcés par Jésus que nous trouvons dans l'évangile de Jean. C'est ce que nous allons voir ensemble et nous allons lire Exode 3, versets 13 et 14. Exode 3, versets 13 et 14, vous allez suivre. On ne va pas le lire tout de suite, je vais vous donner le contexte et après on va lire ces 2 versets pour commencer. Dans quel contexte? Le grand « Je suis » s'est révélé, c'est dans le contexte de la vocation de Moïse. Moïse était dans le pays de Madian, en train de perdre le troupeau de son beau-père. Et il a eu la grande visite. La grande visite, c'est que l'ange de l'Éternel lui est apparu. Le buisson, il a vu du feu, mais le buisson ne consume pas. Et l'Éternel lui a parlé, lui a donné l'ordre pour lui dire quoi faire. Et après que le Seigneur lui a parlé, et Moïse dit au Seigneur, que nous allons lire dans Exode 3, verset 13-14, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous, celui qui s'appelle Je suis. Et Je suis, l'Éternel avait bien dit à Moïse, qui il est? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. J'ai entendu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai vu la souffrance, j'ai entendu les cris que leur font pousser ses oppresseurs et je connais ses douleurs. Dieu a expliqué la mission, pourquoi il est descendu. Il est descendu pour accomplir une mission spéciale. Et Dieu confie sa mission aux hommes. Dieu choisit des hommes pour aller faire ça, pour leur confier une mission pour aller exécuter ses ordres. On voit trois verbes dans ce que Dieu dit à Moïse. Dieu voit, Dieu a des yeux pour voir, il a des oreilles pour entendre, il a de la connaissance, il connaît toutes choses. Voici ce que dit la parole Ésaïe 57, verset 15. En effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui qui, dont l'habitation est éternelle et le nom saint. J'habite dans la hauteur et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. C'est le Dieu. Il est là, malgré sa grandeur, il descend vers le plus démuni. Il voit, il entend, il connaît. Il connaît nos besoins, il connaît. Il agit toujours de cette façon. En plus, il nous donne, nous savons que nous avons quelqu'un qui nous a précédés. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est notre souverain sacrificateur. L'Épître aux Hébreux nous dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, sans commettre de péché. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Notre Seigneur Jésus-Christ est là, notre avocat. Il connaît nos besoins. Vous savez, la vie humaine de l'homme est conditionnée par trois fonctions, passé, présent, futur. Mais Dieu n'est pas limité comme nous le sommes. Dieu est un Dieu d'amour. Il nous aime, il nous a aimés avant la fondation du monde. Il y a un auteur français qui a dit une belle pensée que j'aime beaucoup, et vous allez être d'accord avec moi, Jean Cousteau, il a décrit cette belle parole. Il a parlé des difficultés de l'homme à conjuguer le verbe aimer. Je ne sais pas pour vous si vous avez la difficulté à conjuguer le verbe aimer. Vous savez bien, vos conjugaisons quand même. Le verbe aimer est difficile à conjuguer. Son passé n'est pas simple. Son présent n'est qu'indicatif. Et son futur est toujours conditionnel. Ça peut nous faire réfléchir quand même. Cette pensée. Mais pour nous, nous avons quand même la difficulté à aimer. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ nous appelle à nous aimer les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Jésus-Christ nous a tant aimés. Il nous demande de nous aimer les uns les autres. Et nous avons toute l'éternité, on va vivre ensemble. Nous devons apprendre dès à présent à nous aimer les uns les autres. Et les autres qui sont dans le monde, quand ils voient comment nous avons l'amour, ça va déterminer, ça va le dire que vraiment nous sommes des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Dieu nous a aimés. Il nous aime d'un amour éternel, d'un amour inconditionnel. Nous qui sommes si faibles, fragiles, la fragilité de l'homme. Le psaume 90, verset 6, nous dit très bien que notre vie est comparée à une fleur. Elle fleurit le matin, et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. C'est une fleur. Une fleur, c'est temporaire. Oui, la fleur est belle quand on le voit, mais elle devient fanée vite. C'est ainsi qu'est comparée notre vie. Dieu qui nous connaît, qui nous a formés, il nous aime. Il nous connaît par notre nom, il nous aime. Et c'est lui qui nous appelle à nous aimer. Dieu est amour, il est bonté, plein de grâce. Et il n'abandonne jamais ses enfants. Je suis, le grand je suis s'est révélé. L'Éternel, plus précisément Yahvé, qui vient du verbe hébreu être, Aya, le nom de l'Éternel vient du mot hébreu composé de 4 lettres, difficile à prononcer, parce que dans l'hébreu ancien, il n'y avait pas de voyelle. Alors, ce mot sacré, on traduit ce tétagramme, un mot nouveau, une association de 4 lettres, 4 signes d'écriture qui représentent un phonème, c'est-à-dire élément sonore du langage parlé dans le langage hébraïque. Bon, les Juifs essaient de traduire ce mot, un nom de Dieu, par Yahvé. Yahvé, c'est un des noms de Dieu. Yahvé déclare, par ce nom de Yahvé, ça déclare l'existence de Dieu, que Dieu est autosuffisant, que Dieu est souverain, Dieu est grand. Et c'est par la foi que nous avons, la foi en Dieu, que nous croyons que la parole de Dieu est vraie, que nous croyons que Dieu existe, que ce que la Bible dit est vrai, et que c'est Dieu qui donne la récompense, le rémunérateur, celui qui donne la récompense à tous ceux qui croient, ceux qui le cherchent. Jésus, quand il était sur terre, il a parlé aux Juifs pour leur expliquer qui il est. À un moment donné, il avait un dialogue très long avec les Juifs. Les Juifs qui, dans leur aveuglement, ne pouvaient pas croire que celui, le Messie tant attendu, était parmi eux. Jésus leur disait, dans Jean 8, verset 12 à 59, qu'il était la lumière du monde. Il leur annonce le jugement à venir. Jésus décrit aussi qui sont les vrais enfants de Dieu. Jésus se déclare aussi éternel. Jésus est Dieu. Mais les Juifs ne voulaient pas croire tout ça. Et dans ce long dialogue, en texte que nous ne allons pas lire, ils ont outragé notre Seigneur Jésus-Christ. On pense qu'il avait l'esprit de démon, qu'il est un samaritain. Et quand on dit à un juif qu'il est un samaritain, c'est une insulte. Mais Jésus, dans tout ça, comment Jésus a réagi? Jésus a parlé selon la vérité. Il ne s'énerve pas. C'est un bon exemple pour nous. Hein. Quand les gens nous outragent, de garder notre calme. Ils ont même insinué que Jésus était un fils légitime. Dans ce texte, ils ont pensé qu'ils étaient même supérieurs à Jésus. Nous avons Dieu pour Père. Nous sommes des fils d'Abraham. Mais toi, fils illégitime, ils ont insinué. Mais Jésus parlait selon la vérité, selon ce que son Père lui a dit de dire. Et nous aussi, nous devons avoir l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas, l'apôtre Pierre nous dit, quand nous devons témoigner, apporter la parole, devons toujours prêts à nous défendre avec douceur et respect devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Si on prêche l'évangile en criant, on ne donne pas un bon témoignage. Et Jésus parlait, Abraham est mort, les prophètes aussi étudient. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Tu te prends pour un autre. C'est comme ça les Juifs disaient à Jésus. Et mais Jésus leur parlait selon la vérité. Et Jésus leur dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs, en attendant cette parole, disent, mais tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. Les Juifs ne pouvaient pas comprendre cette vérité, cette parole. Et Jésus leur a dit cette vérité. Avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Les Juifs ont compris ça. Ils ont compris. C'est le « je suis » de l'Ancien Testament que Jésus prétend être. Et Jésus était. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est le « je suis » de l'Ancien Testament. Le Dieu de toute éternité. Et pourquoi ils prenaient des roches pour lapider Jésus. Mais Jésus s'est esquivé d'eux. Donc, dans leur aveuglement, ils n'ont pas voulu reconnaître qui est Jésus. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le « je suis » de l'Ancien Testament, c'est ce « je suis » qui s'est fait homme, qui est allé à la croix, qui est mort pour nous sauver. Et quand il était avec ses disciples, quand les disciples avaient peur sur la mer de Galilée, dans Matthieu 14, Jésus l'a envoyé sur la mer, il est allé à la montagne pour prier. Le vent était contraire, Jésus est venu pour les aider, Jésus marchait sur l'eau, ils avaient peur, pensant que c'était un fantôme. Jésus leur a dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, je suis, j'y suis, mais c'est le même je suis, rassurez-vous, c'est moi, je n'ai pas peur. » Quand nous aussi nous traversons des moments difficiles, des moments de trouble, d'épreuve, cette parole est aussi pour nous, de nous rassurer, il est là, n'ayez pas peur. C'est lui qui nous a promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est bon de nous rappeler cette parole. Si vous oubliez mon message ce matin, rappelez-vous trois choses. Trois verbes. Le Seigneur voit, il entend et il connaît nos besoins. Et quelles que soient les problèmes, nous avons l'adversaire qui nous tiraille, rappelez-nous de cette vérité. Il s'occupe de nous, il nous aime d'un amour éternel. Jésus est celui qui a créé toutes choses. Il est digne de confiance. Maintenant, regardons les sept « je suis » prononcés par Jésus, que nous trouvons dans l'évangile de Jean. Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis le sceptre. Je suis le pain de vie. Le pain de vie. Vous connaissez bien ce cantique. C'est toi, Jésus, pain de vie, qui me nourris jour par jour. Manne céleste bénie, c'est ton merveilleux amour. Pain de vie, pain de vie, pain de vie, don du ciel toujours nouveau. Tu me nourris, pain d'en haut. Quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, les enfants d'Israël criaient pour la nourriture. Le Seigneur leur a envoyé la manne. Ils ne savaient pas ce que c'est. Ils ont crié, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est la manne, qu'est-ce que c'est? Moïse leur a dit, c'est le pain que l'Éternel vous a donné pour nourriture. Le pain que l'Éternel vous a donné pour nourriture. Et l'apôtre Paul, en pensant à ce que le Seigneur a fait pour son peuple, a dit cette parole dans 1 Corinthiens 10, versets 3 et 4, que les enfants d'Israël mangeaient tous d'un même aliment spirituel, buvaient à un rocher spirituel, et ce rocher était Christ. Ce rocher était Christ. Il y a même une légende dans le parmi les juifs, qui dit, le rocher, père, c'est le rocher, frère, moi, il a parlé le peuple. durant tout le séjour dans les airs. On dit, mais nous savons la vérité. Dieu a pris soin de son peuple. La manne est arrêtée quand ils sont arrivés à Gilgal. C'est le Jourdain, ils sont arrivés à Gilgal, la manne s'est arrêtée. Dieu a pris soin de son peuple. Les chaussures n'étaient pas usées. Les habits n'étaient pas usés. Dieu n'était son peuple. Quand Jésus dit qu'il y a le pain de vie, le pain c'est quelque chose d'essentiel pour la vie. Même Jésus est le pain spirituel. Et le prophète, j'ai accueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. C'est ça, la dévorée des paroles. Nous avons une institution spirituelle qui est Jésus-Christ, le pain spirituel, la parole de Dieu. Le prophète a dit cette parole, on ne peut faire que en nous. Qui sommes des enfants de Dieu, scellés par le Saint-Esprit. Nous avons le sceau de l'Esprit de Dieu sur nous. Nous devons nous attacher à cette parole, cette manne spirituelle, le pain de vie. Quand Jésus parle du pain de vie, il parle de la scène n'était pas encore instituée. Mais Jésus parle en ceci de croire en lui, de croire en acceptant son œuvre. Et aussi, on est unis à Jésus-Christ. Le croyant est uni à Christ de deux façons. Par la foi en sa mort et en sa résurrection. C'est pourquoi quand on s'identifie à la mort et en le levant, on réussit pour la nouveauté de vie. Jésus a dit aussi, je suis la lumière du monde. La lumière du monde. Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec moi, mon frère, ouvre-lui ton cœur. Le monde est plein d'ombre, brillant bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. La lumière du monde. Et la lumière du monde associe aussi ses disciples à la lumière. Oui, il a parlé au serment sur la montagne que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes aussi la lumière du monde. La lumière et les ténèbres ne paraissent pas. Jésus a dit que lui est ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus a dit, je suis la porte. Je suis la porte. Le Seigneur dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et trouvera des pâturages. Il entrera, il sortira, et trouvera des pâturages. Au temps de Jésus, les bergers amenaient les troupeaux dans le pâturage pour manger. On les fait entrer dans le bercail pour être en sécurité. Le berger reste à la porte pour observer les entrées et les sorties. Et on pense même que le berger était la porte. Et c'est lui la porte. Et on a fait corriger une mauvaise conception que j'ai donnée à part du riche et du pauvre Lazare. Le riche. Les pharisiens pensaient que la richesse, le riche pensait qu'il était juste riche, et là, il n'a pas considéré. Et pourtant, c'est Lazare qui avait la sécurité. La vraie sécurité, ce n'est pas dans mon compte en banque la vraie sécurité. Et vous connaissez bien l'histoire. Jésus est la sécurité. Je suis le bon berger. Le bon berger. Jésus est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus, mon Dieu, réjouis mon âme. Il délivre du danger, tout en moi le réclame. Vous savez, Jésus en parle le berger, il est berger, mais il y a le bon berger. C'est lui le bon berger. Il parle de mercenaires, qu'il prend bien des moutons. Il ne prend pas soin, il donne, il est responsable. Mais lui, il nourrit son soin, il est le bon berger. Il est le bon berger. Le bon pasteur, pastor qui dérive du verbe latin passer, faire paître. J'ai appelé à notre Seigneur Jésus-Christ, par rapport au passé, Jésus est appelé mon berger, qui doit donner sa vie pour ses brebis. Il a donné sa vie pour nous, c'est pourquoi nous sommes ici. par rapport au présent. Il y a le grand pasteur des brebis, celui qui rend capable aujourd'hui d'accomplir la préparation afin que nous puissions faire sa volonté. Et dans le futur, il est le berger. Quand il vient, chaque surprise, il reconnaîtra les fiers. Et comme l'apôtre Pierre dit, nous sommes incorruptibles. Nous ne savons pas de quelle forme sera cette couronne, cette chose pour mettre sur la tête. Une couronne incorruptible. La couronne de vie, la couronne de justice. Et pourquoi la couronne? Cette couronne d'être, avez-vous hâte d'être auprès de notre Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi est-ce venu à nous pour nos proches, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Tout en quoi en moi, même s'il est mort, aura la vie, aura la vie. Et tout ce qui vit pour Jésus quoi en lui ne mourront plus jamais, jamais, ne mourront plus jamais. Jésus est la résurrection de la vie et la vie. Il a dit cette parole, Lazare est mort. Jésus était un ami de la famille. Quand je parle de Lazare, ce n'est pas le même Lazare que je viens de vous parler dans la parabole, le riche et le pauvre Lazare. Lazare avait deux sœurs, Marthe et Marie. Et pendant que Lazare était malade, Jésus était à l'extérieur. On dit à Jésus, votre ami est malade. Jésus a dit, cette maladie n'est pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu. Elle est pour la gloire de Dieu. Dans notre vie, est-ce qu'on est capable d'accepter souvent les offrandes, les épreuves sont à la gloire de Dieu? Parce que notre Dieu est en situation. Il voit, il entend et il connaît. Il connaît nos besoins et il nous aime. Et vous connaissez l'histoire. J'ai dit, notre ami est malade, on va le réveiller. Elle dort, on va le réveiller. Les disciples pensaient qu'il parlait de soleil, de la mort. Quand il a vu que les disciples n'avaient pas compris, il a dit clairement qu'il est mort. Et après 4 jours, Lazare était 4 jours dans le tombeau. Jésus est arrivé. Jésus, on a vu la sensibilité du Fils. Et il est allé au tombeau pour voir où on l'a mis. Les gens ont mis Jésus en défi, au défi. Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pourrait pas permettre que cet homme ne meure plus. Hein? Ils ont mis Jésus au défi. Jésus, en arrivant au sépulcre, a demandé d'ôter la pierre. Marthe a dit, non Seigneur, il sent déjà. Ça fait 4 jours. Marthe voulait protéger cette tristesse de voir un mort 4 jours. Mais Jésus lui a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus est arrivé au tombeau, on a enlevé la pierre. Jésus a prié à son père avec autorité. Lazare sort et Lazare est sorti. Et Lazare est revenu à la vie, tout comme les 7 autres personnes dans les Écritures qui étaient morts, qui sont revenus à la vie, ont dû passer encore par la mort. Il y a une seule personne qui est morte, qui ne meurt plus, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort, il ne meurt plus. La mort n'avait aucun pouvoir sur lui. Donc, un jour, il nous ressuscitera aussi. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a toutes sortes de chemins étroits. Il y a le chemin large. Il y a un artiste qui a fait un dessin pour expliquer où mène le chemin large et le chemin étroit mène au ciel. C'est juste pour nous donner une idée. Oh. Jésus est le chemin. Jésus est le chemin, il est la vérité, Jésus-Christ est la vie, et il m'a sauvé. Jésus est le chemin. Au temps de Jésus, c'était les Romains qui étaient là, dans la situation géopolitique de l'époque, les ingénieurs romains faisaient de bonnes routes. J'ai entendu qu'on avait un commissaire au Québec pour nos routes. Quelqu'un dit, pensant que nos routes ne sont pas très bonnes, comme de place, c'est une histoire. Mais on disait que tout le chemin à Rome, tout le chemin à Rome. Et vraiment, à cette époque-là, il y avait de bonnes routes. Les chemins, les ingénieurs ont fait en sorte pour diriger tout à Rome. Et ce qui est frappant, c'est que les chemins, on dit que tous les chemins mènent à Rome, mais un seul chemin mène au ciel, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin. Un jour, j'étais de voyage, je parlais à quelqu'un, je lui présentais l'évangile, il m'a dit, comment vous les chrétiens, vous êtes des gens prétentieux. Comment vous pouvez prétendre que ce chemin? Il y a des gens qui pensent, oh, Jésus est venu pour nous montrer un chemin parmi tant d'autres, mais on peut y arriver quand même, on peut faire le détour. Non, Jésus est le seul chemin qui mène au ciel. Et enfin, il dit, je suis le vrai cèpe. Le vrai cèpe, le vigneron. Le cèpe, c'est Jésus-Christ. Les branches sont les croyants. Et les fruits, il faut prendre. Le prophète avait, le prophète a parlé que Dieu avait choisi son peuple, comme le dit, mais ce n'est pas du fruit. Dieu, le Seigneur, attend que nous portions fruit. Il parle d'émonder les branches qui ne portent pas du fruit. Il ne faut pas penser que, comme certaines personnes, quand on coupe les branches, il y a un chrétien qui ne parle pas de ça du tout, parce que Jésus qui parle très clairement, c'est lui qui donne la vie, et elles ne périront pas. Le Seigneur donne. Le Seigneur est le vrai cèpe, et nous sommes des branches. Nous devons porter des fruits en Christ. Nous devons confondre les œuvres et les fruits dans la vie du croyant. Les œuvres sont le service du croyant. Les œuvres, la preuve possible d'une foi véritable. On ne peut pas dire qu'on est au Seigneur à la foi et on n'a pas les bonnes œuvres. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. On fait les œuvres. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres que personne se glorifie. Donc, le Seigneur attend que nous portions du fruit. Le fruit produit, l'esprit produit des fruits, dans le monde, qui sont présents en Christ. Le fruit de l'esprit produit en nous, c'est le caractère en nous, les caractères qui sont déjà présents en Christ. J'ai déjà vu un chrétien qui, avec un maquis, dit « Sois patient avec moi. Le Seigneur a fini son travail en moi. » Le Seigneur travaille en nous. Il veut nous amener à l'image parfaite de son Fils Jésus-Christ. Exemple, le fruit, un fruit. Un fruit peut avoir plusieurs qualités. Quand on lit la Galate, le fruit de l'esprit, donc notre frère a lu, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, etc. On décrit le fruit de l'esprit. Amour, joie, patience, bonté, fidélité, douceur. C'est le fruit de l'esprit. Un fruit peut avoir plusieurs qualités. Je ne sais pas si vous connaissez les mangos. Une mangue, si on prend une mangue peut être délicieuse, sucrée, ronde, belle. C'est la qualité de la mangue. La Bible ne parle pas des fruits de l'esprit, mais du fruit de l'esprit. C'est le caractère. Dieu travaille notre caractère. Nous devons être sensibles à la voix de l'Esprit qui travaille en nous. En même temps, le fruit est produit en nous par l'Esprit. C'est l'Esprit. Donc, nous avons un sauveur merveilleux qui est un berger, un pasteur. Le Seigneur reprochait les pharisiens qui étaient des menteurs. Ézéchiel 34, le Seigneur blâmait même les parce qu'il fuyait des troupeaux, il n'était pas seul. Le Seigneur nous demande d'être bon serviteur, nous devons être prêts à écouter la cœur pour obéir à sa parole. Le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Il nous promet d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos vies et qu'il continue son œuvre afin de notre caractère pour sa gloire, afin que nous soyons des exemples, modèles de ce monde troublé où nous sommes. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos vies. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Tu nous as laissé cette parole pour notre instruction. Que sa parole porte du fruit dans notre vie. Merci, Seigneur, tu nous accompagnes tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Merci pour ton œuvre dans cette Église. Merci que tu es en train de préparer une place pour nous. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, nous serons avec toi pour l'éternité. Amen.
C'est mon frère. C'est mon frère. J'ai une petite remarque.